Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Je vais présenter un autre genre de sermon aujourd'hui, en ce sens que je ne vais pas essayer de vous prouver la fête de Pentecôte. Je ne vais pas essayer de prouver quoi que ce soit en fait. Pour la grande majorité d'entre nous, dans cette salle, nous avons prouvé que les jours saints, nous les connaissons bien, nous les gardons, nous les observons. Donc en lieu et place, je vais faire comme l'apôtre Pierre. Il a fait référence à son propre enseignement et à sa prédication. Je ne vais pas m'y reporter, et je vous donnerai d'ailleurs plusieurs écritures aujourd'hui auxquelles je ne me reporterai pas, mais dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 12. Pierre dit ceci, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Je pense que cela s'applique à vous tous, que nous connaissons bien, et qui êtes établis dans la vérité présente. Donc, puisque vous connaissez cette vérité, je veux vous rappeler ce que vous savez, et vous aider à vous réjouir de cette connaissance. Je veux vous raconter une histoire. En fait, une très longue histoire, mais une belle histoire. En fait, ma présentation ne peut pas lui rendre justice, mais j'espère qu'elle ranimera votre mémoire et votre vision, et qu'elle vous permettra de méditer et d'avoir hâte de comprendre la vision de mieux en mieux, j'espère, et même mieux que moi, bien que j'ai beaucoup apprécié ce que Dieu nous a donné. Comme je l'ai dit, je vais me référer à de nombreuses écritures auxquelles je ne me reporterai pas, mais je vais en évoquer plusieurs, si nous pouvons avoir le temps de le faire, et je ferai mieux de vérifier la montre, car nous sommes un peu en retard en raison de notre interruption de l'assemblée aujourd'hui, et je ferai de mon mieux pour être le plus près possible du temps imparti. Il y a quatre éléments que je vais vous donner un peu d'avance. Il y a quatre éléments dans le sermon aujourd'hui. Nous allons parler brièvement de l'histoire du monde, puis nous allons parler de l'appel de Dieu lancé à Israël, après Abraham bien sûr, pour devenir sa nation. Et troisièmement, nous allons parler de l'illumination de l'Église, et c'est ce sur quoi nous mettrons l'accent. Et enfin, quatrièmement, nous parlerons de l'avenir du monde, qui bien sûr est aussi notre avenir. Alors, commençons notre histoire avec le monde du passé. Peut-être une fois. Vous vous demandez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le raccourci de mon fils, Jeff. Il n'a jamais dit « il était une fois ». Il disait toujours « peut-être une fois ». Donc, quand nous commençons à raconter l'histoire, nous disons « peut-être une fois ». Peut-être une fois, le monde était enveloppé dans l'obscurité. Une obscurité si totale qu'il n'y avait apparemment aucune lumière. Si vous n'avez jamais été dans un endroit comme, par exemple, les cavernes de Carlsbad, ou une autre caverne sombre et profonde où ils éteignent les lumières, comme ils ne le font plus maintenant malheureusement, ce que je comprends, vous ne pouvez pas apprécier vraiment ce qu'est la vraie obscurité. Mais quand vous êtes dans l'obscurité totale, il y fait incroyablement sombre. Ce dont nous parlons, c'est de ne pas pouvoir voir votre main devant votre visage. L'obscurité couvrait la terre. Il n'y avait pas de lumière. Vous pouvez à peine comprendre cela et penser à ce que cela signifie. Et bien sûr, Dieu avait établi depuis longtemps la terre et l'univers, et pourtant, tout était à l'envers, et à l'envers, je le dis en termes de fonctionnement global, ça ne marchait pas. Lisons cela parce que c'est fondamental pour le thème de l'histoire dans Genèse chapitre 1. Nous le connaissons assez bien ce chapitre, comme nous le savons pour la plupart des écritures que je vais citer aujourd'hui, mais celle-ci est particulièrement importante pour toute l'histoire. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous savons que cela s'est passé avant le reste de ce passage, au verset 2. La terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. L'océan était couvert, mais tout le reste l'était en fait. Apparemment, alors que vous lisez plus loin, la terre entière était couverte de profondeur, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Notez tout de suite qu'il nous est présenté l'Esprit de Dieu. Tout de suite. Puis Dieu dit que la lumière soit, et il y eut de la lumière. Et Dieu vit la lumière, et il vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Oui, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, et Dieu a, en un sens, fait cela depuis ce temps-là, mais pas de la même manière, géologique ou géographique ou physique, que celle que nous pouvons lire. Dieu a aussi séparé la lumière des ténèbres parmi les êtres humains. L'esprit se déplaçait sur la surface des eaux et le changement se produisit immédiatement. Dieu commande et la lumière semble être un parallèle important de l'avenir parce que Dieu finira par restaurer la lumière pour tous. Lisons un autre passage dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 6 et au verset 14 à 16. 1 Timothée, chapitre 6, verset 14 à 16. Jésus-Christ apparaissant, qu'il manifestera en son temps celui qui est le bienheureux et unique potentat, et roi des rois et seigneur des seigneurs, qui seul a l'immortalité, demeurant dans une lumière inaccessible. Vous lisez dans l'ancienne version du roi Jacques une lumière dont aucun homme ne peut s'approcher, une lumière inaccessible. Même constat, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc Dieu habite dans une lumière inaccessible. C'est intéressant d'y penser, de méditer sur ce que cela signifie réellement, bien que nous ayons bien sûr des preuves avec notre propre Fils que nous ne pouvons pas approcher d'eux-mêmes. Alors, nous continuons. Je vais résumer une partie de l'histoire et ensuite, ce que Dieu va faire, il va créer l'homme à sa propre image. Plus ou moins dit d'une autre façon, vous pouvez devenir comme moi, il le dirait, et il a donné à l'homme le choix de lui obéir et de vivre éternellement, ou de lui désobéir, de le rejeter et de mourir éternellement. Monsieur Franks a couvert ce sujet il y a quelques semaines. Je ne pense pas qu'il pourrait y avoir le moindre doute sur la façon dont Dieu a donné à Adam et à Ève beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a décrit ici. Et nous voyons la progression de la vie humaine très rapidement. Mais sans Dieu, et nous pouvons voir qu'ils ont reçu beaucoup d'informations dont nous n'avons pas exactement l'enregistrement ici, et nous savons que c'est vrai, même avec Christ, parce que Jean a dit que si tout ce qu'il avait fait était écrit, le monde en serait rempli de livres. Et donc, on ne nous dit pas tout dans le récit de la Genèse, on nous donne des informations très brèves dans ces quelques chapitres. Et voici que maintenant le grand méchant loup fait son entrée en scène. En fait, c'est un grand ange méchant que je nomme Satan, le diable, et qui sera plus tard appelé un lion. Et il dit à l'humanité un gros mensonge. Vous ne mourrez point. Alors ils ont désobéi et ils ont rejeté l'offre de vie de Dieu, pensant qu'ils pourraient emprunter la solution de facilité, comme Satan le leur avait dit. Mais maintenant, les voilà coupés de Dieu, et ils restent seuls. En fait, ils viennent d'être condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu leur laisse un peu d'espoir. Il dit à Ève qu'un futur descendant de la vôtre, de votre génération, brisera la tête du grand méchant loup. Nous pouvons toujours l'appeler comme ça pour le moment, ou un lion, si vous préférez, qui agite en tant que serpent à ce moment-là, ou comme un dragon. Et donc Dieu fait une promesse. Il fait une promesse qu'un sauveur viendra pour sauver l'humanité de ce destin de mort éternelle. Sans l'aide de Dieu, l'homme ne sait pas comment vivre. Il n'en a pas la moindre idée. Et Dieu nous dit cela à maintes et maintes reprises dans les Écritures. Des choses comme « l'homme ne connaît pas le chemin de la paix » ou dans le livre de Jérémie « ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas ». Nous avons divers exemples, diverses choses. Par exemple, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ou, à maintes et maintes reprises, en fait, on le voit, Dieu nous le dit, l'homme ne peut pas y arriver. Vous et moi, nous avons dû apprendre cela, lorsque nous en sommes venus à comprendre la vérité, et que nous sommes arrivés à la repentance, à la réalisation que nous ne pourrions pas y arriver de nous-mêmes. L'homme ne peut pas réussir, et donc progressivement, sinon même assez rapidement, après avoir été coupé de Dieu, il se tourne complètement vers le mal. L'homme se tourne complètement vers le mal. Il rejette complètement Dieu. Il devient de pire en pire. Et de pire en pire, pendant des centaines d'années, je n'essaierai pas de tout citer pour vous, mais finalement, Dieu finit par dire « assez ». Dieu dit « assez ». Tout ce à quoi vous pensez, c'est le mal et la méchanceté. Et il est décrit de cette façon dans Genèse au chapitre 6. Les pensées de votre cœur ne sont que du mal, continuellement. Vous ne vous améliorez jamais. Vous ne devenez jamais plus intelligent. Vous n'apprenez jamais rien. Vous êtes lié au mal, et bien sûr, c'est ce qu'on appelle plus tard dans le Nouveau Testament l'esclavage au péché, l'esclavage de Satan le diable. Donc Dieu dit « Je me repens de vous avoir fait, et je vais envoyer le déluge pour détruire la terre ». Alors peut-être avons-nous ici dans l'assistance des fans, des frères Statler, des années 60, avec leur chanson biblique « I'm going to send out the water and wash them all away ». Je traduis « Ce sont les eaux que j'enverrai, et ainsi tous bien les rincer ». Alors non, je n'arrive pas à imiter Harold Rhodes. Vous le savez bien, Harold Rhodes aurait dit cela encore deux octaves plus basses. Ce sont les eaux que j'enverrai, et ainsi tous bien les rincer. Alors Noé est reconnu. Il est appelé avec sa famille, et il est sauvé du déluge, qui détruit le reste de la vie humaine. Je sais, je vous dis tellement de choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Mais l'humanité reçoit simplement la possibilité de recommencer. De recommencer avec, on pourrait le dire, une ardoise nette, une ardoise effacée. Tout le mal a été banni. Mais au lieu de cela, l'homme continue. En fait, il commence tout de suite à pécher et à rejeter Dieu. Et en quelques générations, survient comme un coup de feu un grand homme important, important à ses propres yeux, appelé Nemrod. Et sa femme, Sémiramis, fait savoir qu'il est, lui, Nemrod, son fils ressuscité. Ainsi, il devient à la fois son fils et son mari. Et de toute évidence, selon la traduction, tout au moins, il épouse sa propre mère. Et ils prétendent, tous deux, être Dieu. Maintenant qu'ils sont Dieu, ils ont créé une fausse religion, que Satan utilisera plus tard pour tromper tout le monde au sujet de Dieu et sur la personne de Jésus-Christ, quand il vient en tant que fils d'une mère vierge. Maintenant, l'homme construit une tour pour affronter Dieu et pour s'en défendre. Mais Dieu, qui a bien gardé, qui a bien sûr gardé la haute main sur toute cette affaire, finit par diviser les langages et éparpiller l'humanité à travers le monde. Et ainsi, aujourd'hui, nous avons des peuples ayant toutes sortes de langues. Certains en ayant des centaines, dont M. Micker n'utilise que 4 ou 5, probablement. Certains d'entre vous connaissent probablement 4 ou 5 langues. J'ai connu des gens dans ce cas-là. La plupart sont européens. Mais voilà, les gens sont éparpillés dans le monde entier et sont incapables de communiquer, incapables de parler, de travailler plus ou moins ensemble jusqu'à maintenant, jusqu'à l'époque actuelle. Donc, une fois de plus, le Créateur en a vu assez. Une fois de plus. Et donc la tour de Babel, c'est décidé, doit disparaître. Et il se propose à la place de se faire une nation sainte, une nation spéciale. Non pas toute la race humaine, mais une nation sainte choisie, spécialement appelée, qui lui obéira et qui l'adorera en tant que Dieu créateur. Cela nous amène au chapitre 2 de notre histoire, l'appel d'Israël. L'appel d'Israël. Ainsi Dieu parle à un homme nommé Abram. Il n'est pas en Palestine, ou ce que nous appelons la Terre Sainte. Aujourd'hui, il est dans la région chaldéenne de Babylone. Dieu parle à Abram et lui dit ce qu'il veut qu'il fasse. Et remarquablement, Abram, que nous reconnaissons en tant qu'Abraham, obéit. Il fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et il l'a prouvé. Il a cru en Dieu. Il l'a prouvé par ses actions. Et de façon ultime, Dieu lui a promis beaucoup, beaucoup d'enfants. Et nous sommes tous certains d'être, d'ailleurs, ses enfants, certains d'entre nous physiquement, mais nous sommes tous, au moins, spirituellement, les enfants d'Abraham. Dieu lui a promis beaucoup d'enfants, avec leur propre nation, leur propre pays. Il a mené Abraham et il lui a montré le pays de Canaan. 400 ans plus tard, ce sont les enfants d'Israël que le Christ fait sortir d'Égypte, avec de nombreux miracles. Et oui, le Christ est bien ce rocher qui les a suivis pendant le désert, dans le désert. Pendant que nous lisions l'Épître aux Corinthiens, nous l'avons lu. Et alors, à ce moment-là, que fit Dieu? Il leur a donné le même choix qu'il a donné à Adam et Ève. Il leur a donné le même choix, a-t-il dit, choisir entre la vie et la mort. Mais il a également dit de choisir la vie pour que vous et votre semence puissiez vivre, choisir la vie. Il leur a donné ce choix, et il leur a donné sa loi pour les guider dans cette vie et dans ce choix, Christ. Il les a pris pour les siens, et il était un bon mari, un mari fidèle, aimant, qui lui a donné tout ce dont elle avait besoin. Comment a-t-elle réagi maintenant, si vous n'avez pas commencé à penser à la façon dont ces choses s'appliquent à vous, encore peut-être que c'est le bon moment? Comment a-t-elle répondu? Comment a-t-elle réagi? Voyons d'abord ce que Dieu dit à Israël dans Exode chapitre 19 verset 6. Exode chapitre 19 verset 6. Il dit, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Alors cela semble bien familier. Cela devrait l'être, bien sûr, parce que Pierre nous dit que c'est exactement ce que nous sommes, l'Église. Parce que, bien sûr, nous sommes l'Israël spirituel. Il dit, « Vous êtes un royaume de prêtres, une nation sainte. » Que font les prêtres? Eh bien, les prêtres enseignent la loi de Dieu, la façon de vivre de Dieu. Les prêtres font que les gens rencontrent Dieu. Les prêtres dirigent les gens vers Dieu. Non pas que vous deviez passer par un prêtre en soi, mais ils sont les instruments de Dieu pour instruire, pour guider, pour diriger son peuple. Qu'il soit un Israël physique ou qu'il soit un Israël spirituel. Mais Israël a répondu d'une manière absolument incroyable. Israël est devenue en fait une prostituée. Elle était infidèle à Christ et elle s'est tournée vers des dieux païens à la place. Elle les a adorés, elle les a servis à plusieurs reprises, bien que Dieu soit intervenu à plusieurs reprises pour les instruire, pour les corriger et pour leur pardonner. Et ils sont retournés tout droit à leur mauvaise voie. Ainsi, il nous est dit finalement dans Jérémie chapitre 3 verset 8, je ne vais pas m'y reporter une fois de plus, mais Jérémie chapitre 3 verset 8 dit que Christ a divorcé d'elle. Il l'a répudiée en raison de son impureté. Elle était une prostituée qui ne voulait pas revenir vers son mari, plutôt que de donner sa vie pour... elle a donné sa vie à des dieux païens. Donc elle ne voulait pas revenir vers son mari légitime. Maintenant, Dieu lui avait donné sa loi, sa vérité, et même un plan pour leur propre royaume, qui était une image du royaume spirituel qu'il allait construire. Et quand il les a établis en tant que nation, il leur a commandé d'observer des jours saints parmi lesquels était ce jour de Pentecôte, appelé alors la fête des semaines, qui devait être comptée, comme M. Burnett nous l'a dit en lisant dans le livre du Deutéronome. Laissez-moi maintenant citer quelques versets rapides que je vais lire plutôt dans le livre du Lévitique au chapitre 23, nous le connaissons bien, et aussi dans le livre de l'Exode au chapitre 34. Allons d'abord dans Lévitique chapitre 23. Nous savons bien que c'est le chapitre qui inclut tous les jours saints. Lévitique chapitre 23, versets 10 à 11. Lévitique chapitre 23, versets 10 et 11. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe, le prêtre, devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Nous avons appris et nous avons compris que cette gerbe agitée représente Jésus-Christ, et qu'il est le premier de la moisson. Il est le premier des prémices. Il est le premier être humain à être pris de la chair et transmis à l'Esprit-Saint, transformé, quel que soit le mot que vous voulez utiliser, ressuscité des morts et fait esprit. C'est le premier des premiers fruits. C'est cette première poignée de grains qui a été offerte pendant les jours des pains sans levain, à partir desquels nous comptons 50 jours pour arriver ici, en ce jour, au jour de Pentecôte. Nous voyons que dans Exode chapitre 34, avec ce que nous venons de lire, M. Burnett l'a lu plutôt dans le livre du Deutéronome, mais allons dans Exode, Exode chapitre 34 et verset 22. J'avais un peu de mal à l'appeler M. Burnett, mais maintenant qu'il est âgé et qu'il est grisonnant, c'est plus facile pour moi. Il était juste Andy quand Jeff l'appelait parfois, comme dans l'émission d'Andy Griffith, Ange. Il était juste Ange. Exode chapitre 34, verset 22. Exode chapitre 34, verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année, cette dernière étant, bien sûr, la fête des tabernacles. Donc, c'est ici la fête des semaines qui est aussi la fête des prémices. la fête de Pentecôte, et Jésus-Christ est la gerbe agitée, ou la première gerbe des prémices. Et nous tous qui sommes assis ici, aujourd'hui, nous sommes appelés à être, et nous pouvons être les prochaines prémices, les prémices suivantes, et après nous vient le reste de la récolte. Les jours saints étaient destinés à attirer Israël vers Dieu, vers leur Créateur, en apprenant à le remercier pour leur bénédiction, quand ils avaient une récolte. Eh bien, quand ils avaient une récolte, ils avaient un festin et ils remerciaient Dieu pour leur bénédiction. Mais ces jours étaient aussi des images, des représentations que l'Église, l'Israël spirituel d'aujourd'hui, devait comprendre plus tard. Ils ne comprenaient pas la signification spirituelle de ces jours, bien que quelques-uns qui ont été appelés à cette époque et qui ont changé ont probablement déjà compris cela. Il y a des raisons de croire que des gens comme David et d'autres, des prophètes, ont compris quelque chose à propos de l'image des jours saints. Il y a une vingtaine de sermons qui pourraient être présentés le jour de la Pentecôte. Nous avions des problèmes quand nous avions des assemblées le matin et l'après-midi pour savoir comment couvrir toutes les matières. Et maintenant que nous avons une seule assemblée, la seule façon que je peux imaginer, c'est de vous raconter l'histoire, simplement. Alors ce jour est consacré aux prémices. Il noue ensemble, relie ensemble l'offrande de la gerbe, la résurrection du Christ, qui est représentée par cette gerbe agitée, puis la récolte précoce, illustrant le salut de l'Église à travers tous les âges, le salut de la nation spirituelle de Dieu. Passons à l'explication de Paul quand il se défend dans 1 Corinthiens 15. Je pense que M. Bernet a mentionné cela en passant concernant les prémices dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous l'appelons bien sûr le chapitre de la résurrection parce qu'il couvre tellement de détails sur ce qu'est la résurrection et comment elle se produit. Mais voyons au verset 20, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 20. « Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui se sont endormis, de ceux qui sont endormis. Ceux qui sont morts, ceux qui sont endormis, comme il est écrit dans la version Darby. Dans ce cas, ce sont des individus convertis qui se sont endormis, mais techniquement, bien sûr, les prémices de tous ceux qui se sont endormis, parce que tous ceux qui n'ont jamais été ressuscités viennent après le Christ, qui est le premier des prémices. Verset 22, nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. » Il y a donc un long processus ici, depuis le moment où Christ est devenu le premier des prémices, jusqu'au moment où toute la moisson est récoltée, appelée la fête de la récolte, dans les Écritures que nous venons de lire. Il y a une longue période de temps. Il y a un plan en mouvement, nous sommes un groupe intérimaire dans un sens entre le Christ et le reste du monde, et nous sommes un groupe intérimaire entre la première résurrection qui a ramené le Christ dans la famille de Dieu, dans la gloire qu'il avait avec le Père avant que le monde ne commence, comme il l'a dit lui-même, et quand ceux d'entre nous qui sommes le peuple de Dieu dans cet âge seront ressuscités à la première résurrection. Donc c'est Christ, le premier des prémices. Puis ceux qui sont en Christ à sa venue, au verset 23, ceux qui sont en Christ, qui vient, cela espérons-le, inclut tous ceux d'entre nous, que nous soyons dans le cas, selon le cas, vivants ou bien morts, décédés. Nous sommes donc la première moisson suivant Jésus-Christ et précédant la vaste moisson de tous les êtres humains avant que l'histoire humaine ne se termine. Cela nous amène au chapitre 3 de notre histoire, qui est donc maintenant le chapitre principal, l'illumination de l'Église. L'illumination de l'Église. Et j'espère que ce terme signifie quelque chose pour vous. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ne peux pas lire les Écritures qui utilisent le terme ou qui y font référence sans avoir un peu de frisson en moi. Non pas à cause de l'eau de la pluie de cet après-midi dans mon costume, mais à cause du mot sur la page. L'illumination de l'Église. Revenons à Actes. Acte chapitre 1. À l'approche du jour de la Pentecôte, dans les Écritures, ici, dans la chronologie, alors que le Christ se prépare à quitter la terre et à monter au ciel. Les disciples essayent de comprendre quand il va faire le reste du travail qu'il a promis de faire, et il le dit au verset 8, je cite, « Mais vous recevrez une puissance, acte chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez cette puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous. Pourquoi faire? Eh bien d'abord, il le dit ici, pour être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes familiers avec cela aussi. Je ne me reporterai pas à Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, que vous connaissez bien, que vous pourriez probablement situer mot pour mot. Mais Christ l'a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez donc et enseignez, allez prêcher l'évangile à toutes les nations et baptisez les gens. » Le pouvoir a été donné à l'Église de faire cela, et ce pouvoir a été démontré tout de suite le jour de la Pentecôte. Et il dit cela environ 10 jours avant la Pentecôte, avec une autre écriture à laquelle je ne me reporterai pas, dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Et j'espère que si vous n'êtes pas familier avec tout cela, vous en examinerez certaines plus tard, certaines autres écritures, mais pour le moment, Jean, chapitre 1, verset 12, dit ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Adam n'avait pas ce pouvoir. Il avait cette option. Il avait l'arbre de vie planté là, qui contenait apparemment, dans un sens symbolique, ce pouvoir de prendre du Saint-Esprit et de vivre selon le plan de Dieu et la voie de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a rejeté cette offre. L'homme n'a pas reçu le Saint-Esprit. L'accès à l'arbre de vie a été fermé et l'humanité a été chassée du jardin. Puis Dieu a envoyé Jésus-Christ, et après avoir payé le prix du péché, Dieu a répandu l'Esprit Saint afin que l'humanité puisse devenir des fils de Dieu. Nous considérons cela comme un processus d'engendrement, de sorte que le pouvoir de proclamer le salut au monde entier et le pouvoir de recevoir personnellement le salut ont été donnés tous les deux par ce Saint-Esprit répandu. On pense bien sûr aux langues de feu, comme on les appelle, et parfois on oublie de le faire, on oublie de le mentionner. Elles sont venues sur chacun d'entre eux quand le Saint-Esprit a été déversé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Dieu a démontré sa puissance par le feu ainsi que les autres miracles qui ont eu lieu dans ce contexte. Allons à Actes, le livre des Actes, chapitre 2. Ici nous sommes encore au chapitre 1 pour le moment, mais j'espère que je n'ai pas fermé ma Bible au moins. Et j'ai oublié de vous dire de ne pas le faire. Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, donc c'est donc Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je suppose qu'une tornade qui traverserait le bâtiment aurait pu être approprié aujourd'hui, mais je ne pense pas que c'était le genre de vent puissant que nous voulions voir. Nous voulons voir le vent puissant de Dieu, qui porte le pouvoir de faire ce que nous avons besoin de faire. Verset 3. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu leur a donc donné le pouvoir de le faire, au sens large, en leur donnant le Saint-Esprit, qui est la source du pouvoir divin. Mais il leur a aussi donné des outils spécifiques à travers ce pouvoir, et dans ce cas, la capacité de parler d'autres langues, afin qu'ils puissent faire ce qu'il leur avait dit de faire. Non seulement ce qui va se passer à travers les générations et les siècles et les millénaires, c'est que l'évangile va être prêché, et il est prêché juste à ce moment-là, de sorte que lorsque ceux qui étaient autour ont entendu le bruit et sont venus écouter, ils l'ont entendu dans leur propre langue, et l'évangile a commencé alors à être prêché à ce moment-là. Dans Hébreux chapitre 12, je ne vais pas m'y reporter, Hébreux chapitre 12 verset 29, il y a une déclaration que j'apprécie également, particulièrement. Hébreux chapitre 12, verset 29, dit ceci, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tout amateur de plein air sait bien que le feu fournit de la lumière aussi, le soir en particulier, tout comme le feu va de pair dans le cadre de l'arsenal de Dieu avec la lumière, comme l'a mentionné M. Burnett. Qu'il, Dieu, est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. C'est ce que M. Burnett a mentionné. Il a envoyé du feu comme une démonstration physique de ce pouvoir spirituel. Et bien sûr, le feu, dans un sens, je suppose qu'il était spirituel, je ne sais pas comment il s'est manifesté, est-ce que c'était un feu réel auquel vous auriez pu accoler un morceau de papier et ainsi le brûler? Probablement pas. C'était probablement du feu dans un sens moins tangible, mais bon, nous ne le savons pas. De toute façon, Dieu est lumière, et il habite dans la lumière, et il envoie aussi de la lumière. En effet, dans les cantiques, nous chantons « Envoie ta lumière et ta vérité ». Le plan de Dieu inclut le partage de son feu, de sa grandeur, de sa gloire avec nous, de sa nature même. Nous participons à la nature divine, et c'est un peu effrayant quand nous trébuchons, quand nous péchons, quand nous réalisons que nous avons péché. Et quand on y pense, attendez une minute, je suis censé être un participant de la nature divine. Comment est-ce que j'ai pu faire cela? Ce partage de la lumière est le message du royaume de Dieu que le Christ a proclamé d'abord dans un monde obscur, puis transmis à son Église pour le proclamer dans ce monde obscur. Et son Église doit vivre ce message afin que nous soyons cette ville sur la colline qui ne peut pas être caché. Cette ville sur la colline qui ne peut pas être cachée. Son Église doit vivre ce message comme une lumière dans ce monde obscur. Au chapitre 26 du livre des Actes, nous avons une défense de l'apôtre Paul lorsqu'il est faussement accusé. Et ensuite, il fait quelque chose d'intéressant. Paul, comme les autres auteurs de la Bible, cite Jésus-Christ. Au chapitre 26, il dit ceci dans les versets 17 à 18. Le livre des Actes, chapitre 26, versets 17 et 18. Paul dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Il parle, Jésus-Christ parle à Paul, et Paul le cite comme lui disant cela à ses propres oreilles. Et quel est le but du verset 18? C'est ceci, « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Ce qui est dans un sens la même chose. Depuis les ténèbres, c'est-à-dire le chemin de Satan, vers la lumière, ce qui est le chemin de Dieu. Pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, choisis, appelés à faire partie de son Église, pardonnés par la repentance et le baptême et la réception du Saint-Esprit. C'est ce que Christ allait faire alors à travers Paul. C'est ce que Christ a toujours fait à travers son Église et son ministère, et c'est ce que Christ va continuer à faire jusqu'à la fin des temps, et en fait, quand nous pensons à la fin des temps, à la fin de cet âge, il s'agit de ce monde dans lequel nous vivons, même au-delà, à travers le millénium, et jusqu'au jugement du grand trône blanc. 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, si vous voulez bien. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de Bible, nous en avons. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » Cela semble étrange jusqu'à ce que vous lisiez le reste de la phrase. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Mais c'est le Dieu qui a commandé à la lumière de briller des ténèbres, qui a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. C'est une phrase un peu complexe, et c'est puissant, c'est chargé de sens. Il a commandé à la lumière de briller des ténèbres, depuis les ténèbres. Elle a brillé dans nos cœurs pour nous donner quoi ? La lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Et non seulement la connaissance de Dieu, mais la connaissance de la gloire de Dieu. Il habite dans une lumière inaccessible. Il est un feu consumant. Et nous lisons des descriptions plus spécifiques de son trône et de son apparence. en particulier dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr, avec certaines des choses dans les prophéties, les prophètes majeurs en particulier. Où est cette gloire révélée sur la face de Jésus-Christ ? Pas seulement l'apparition de la gloire sur le visage de Jésus-Christ qu'il a décrit, comme son visage brillant comme le soleil dans toute sa force, puis des flammes de feu à l'intérieur de ce soleil comme des yeux, une grande puissance, une grande gloire, mais la gloire spirituelle de la façon dont il a vécu. Le visage de Jésus-Christ signifiant son visage, son engagement, son apparence dans le sens spirituel, qui il était, son identité et sa gloire, tout cela se révèle dans la façon dont il a vécu et la façon dont il a enseigné et la façon dont il s'est engagé à une soumission absolue à son Père céleste. Pourquoi est-ce que le monde n'a pas reçu cela ? Pourquoi est-ce que le monde ne reçoit-il pas la lumière sur la face de Jésus-Christ, la gloire qui se révèle ? Vous connaissez très bien ce passage et je ne m'y reporterai pas non plus. 2 Corinthiens chapitre 4. En fait, ce n'est pas très loin de là où nous étions. 2 Corinthiens chapitre 4 dit ceci, que le Dieu de ce monde a aveuglé les esprits afin qu'ils ne puissent pas croire. Il a aveuglé les esprits, pensez aux aveugles. Il y en a probablement certains ici, je ne me souviens pas maintenant, mais vraiment, une personne aveugle ne peut pas voir la lumière. Certaines personnes ont un niveau de cécité dans lequel elles peuvent au moins discerner qu'il y a de la lumière. Elles font la différence. J'ai connu des personnes aveugles qui, par contre, ne peuvent même pas discerner que la lumière est présente. Et c'est l'état spirituel du monde d'aujourd'hui. Il est dans l'aveuglement et un aveuglement total, une obscurité totale, comme les ténèbres enveloppaient la terre dans Genèse chapitre 1, et que la lumière a brillé dans ces ténèbres. Mais que fait l'homme dans l'évangile de Jean au chapitre 3 ? Reportons-nous, voyons ce qui est dit dans Jean chapitre 3. Jean 3, il est intéressant de voir comment les différents apôtres écrivent les évangiles, pas tous de la même façon, et pas tous apparemment des apôtres d'ailleurs, mais comment ils décrivent certains aspects de la vérité qui pourraient ne pas être trouvés dans le même genre de mots, dans d'autres endroits. Jean chapitre 3, verset 19, dit ceci. Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ne voulaient pas connaître la vérité. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils étaient contents de qui ils étaient et de ce qu'ils faisaient, de leur façon de vivre. Ils n'avaient pas besoin de lumière. Ah ah ! Il y a un chemin qui semble juste à un homme, mais sa fin est un chemin de mort. Il ne sait pas qu'il est aveugle, comme vous et moi. Nous ne savions pas que nous étions aveugles. Peu importe à quel point nous étions d'ailleurs religieux ou irreligieux avant la conversion, nous ne savions probablement pas que nous étions aveugles. Maintenant, bien que Satan soit en fin de compte responsable, comme nous l'avons vu, il est le dieu de ce monde, il a aveuglé les esprits. Mais l'homme est innocent dans le sens où il semble l'avoir préféré, je veux dire, il a préféré les ténèbres à la lumière. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre tellement l'accent sur Jean chapitre 6 verset 44. Jean chapitre 6 verset 44 que vous connaissez bien, qui dit qu'aucun homme ne peut venir à Christ sauf si le Père ne l'attire ou l'appelle, autrement ce n'est pas possible. Il n'est pas possible pour l'homme de le faire. Remarquons d'abord 1 Corinthiens chapitre 2. C'est une écriture d'une importance capitale pour le jour de la Pentecôte. En fait, il y a plusieurs sermons regroupés dans ce chapitre particulier, 1 Corinthiens chapitre 2, que nous pourrions des sermons que nous pourrions donner, je suppose, si nous devions choisir de nous concentrer entièrement dessus. 1 Corinthiens chapitre 2. Parce que cela exprime, comme nous le disons, une pleine bouchée pour chacun d'entre nous. 1 Corinthiens chapitre 2. J'aimerais lire toute la section du verset 9 vers le bas, qui parle de l'incapacité de l'homme à savoir, mais je vais me concentrer sur le fer de lance de la conclusion, ici dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme naturel, alors l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme naturel sans aucun élément spirituel, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous nous demandons parfois pourquoi la vérité la plus évidente ne peut pas être vue par nos amis, par nos proches, ou par quiconque avec qui, les personnes avec lesquelles nous discutons. Nous avons de la famille, nous avons des amis qui nous accordent d'ailleurs une grande estime, qui respectent notre engagement envers notre mode de vie. Mais quand nous essayons de leur expliquer quelque chose d'aussi simple que le sabbat ou n'importe quelle viande impure, quelque chose de physique qu'ils pourraient saisir, non, l'esprit naturel n'est pas capable de discerner les choses spirituelles. Maintenant, rappelez-vous que l'esprit naturel est coupé de Dieu depuis le jardin d'Éden. Le Saint-Esprit était là, dans l'arbre de vie, au moins symboliquement. S'ils avaient obéi à Dieu et pris de l'arbre de vie, ce que nous spéculons, et M. Armstrong a pleinement spéculé dans ce sens, si vous appelez cela de la spéculation dans son cas, moi en tout cas j'appelle cela du discernement, de la compréhension et de la sagesse. Mais il l'a clairement expliqué dans ses discussions, et j'ai toujours cru et accepté la même chose, que le Saint-Esprit aurait été disponible pour Adam s'il avait pris de l'arbre de vie. Et c'est bien ce que c'est un arbre de vie, mais il ne l'a pas fait. Et l'humanité a été coupée et n'a pas d'arbre de vie, et n'a pas d'esprit de vie. Et l'homme naturel ne peut donc pas discerner les choses spirituelles, peu importe à quel point elles peuvent sembler logiques. C'est l'une des façons dont nous avions l'habitude, que nous pratiquons probablement encore. Je suis à la retraite, c'est l'une des façons dont nous discernons, nous les pasteurs. Lorsque quelqu'un est appelé, il est capable de discerner des choses spirituelles que son voisin d'à côté ne discernera pas. Quelqu'un qui est appelé peut discerner ces choses, des choses spirituelles que son voisin ne discernera pas. Éphésiens chapitre 1. Dans Éphésiens chapitre 1, j'ai toujours dit que je déteste lire n'importe quelle partie d'Éphésiens chapitre 1 et 2 sans lire les deux chapitres complètement. Mais nous ne pouvons pas faire cela par manque de temps. Éphésiens chapitre 1 verset 17. Je vais lire 3 ou 4 versets ici seulement jusqu'au verset 20 et même d'ailleurs verset 21. Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 21. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Maintenant, nous comprenons que pour être l'illumination, non seulement avec la lumière entrant par la fenêtre, c'est le même principe que quand vous vivez dans les ténèbres. Vous êtes illuminé par la vérité, vous êtes illuminé par un appel qui vous donne une perception de qui est Dieu, et de ce que Dieu est, et de ce qu'il veut de vous. Et donc il dit qu'il prie pour que leurs yeux, les yeux de leur compréhension soient éclairés. Je continue. « Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Son héritage qu'il réserve aux saints. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, mais il hérite avec nous dans le sens comprenant tout le reste de l'univers. Je poursuis. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Et maintenant, il retourne au cœur de tout le sacrifice du Christ. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Excusez-moi. Il poursuit en disant qu'il a tout mis sous ses pieds, y compris l'Église. La gloire de Dieu s'exprime à travers la venue de Jésus-Christ, la vie parfaite qu'il a vécue, ce sacrifice parfait qu'il a donné, sa résurrection d'entre les morts, et puis bien sûr l'envoi du Saint-Esprit, pour nous permettre de tout comprendre, la puissance de Dieu, la lumière de Dieu nous est livrée. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Est-ce que nous savons ceci? Est-ce que nous croyons cela? Comprenons-nous cela? Tout mon propos dans un sens aujourd'hui est de nous aider à nous réjouir dans ce que nous savons, et nous nous réjouissons avec le genre d'excitation, d'enthousiasme qui aide à établir un plus grand engagement à ne jamais abandonner, ne jamais échouer, ne jamais délaisser, ne jamais abandonner ce que Dieu nous a donné. Ces jours saints sont une instruction sur lesquels nous sommes présents. Et où nous savons où nous allons, et nous le répétons pratiquement année après année, comme je l'ai dit au début, comme Pierre l'a dit, je vous rappelle des choses que nous savons déjà. Comment gérons-nous ces choses que nous savons? Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Maintenant, nous ne recevons pas seulement de la lumière, mais nous sommes lumière. Cette lumière nous imprègne, c'est une lumière qui est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit et qui se répand vers les autres de diverses manières, de diverses expressions, et je n'ai pas le temps de détailler les versets, ceux que vous connaissez assez bien, et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les apprendre, mais l'Esprit de Dieu nous donne une capacité pour toutes sortes d'activités spirituelles que nous n'avions pas auparavant. Et elle nous permet d'être son peuple à lui, et de le représenter, et d'être une lumière dans ce sens pour le monde. Vous étiez dans les ténèbres, mais vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Avec le fruit de l'Esprit maintenant. Il y a un petit résumé ici, le fruit de l'Esprit, c'est la bonté, la justice et la vérité. Encore des termes très larges, qui contiennent énormément d'informations. Il y a énormément de choses sur la bonté, la justice et la vérité. Nous étions dans les ténèbres, maintenant nous marchons dans la bonté, la justice et la vérité, qui est cette lumière. Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, quelques pages plus loin, au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 12. Nous sommes exhortés ici, et de cette façon il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons été transportés des ténèbres dans le royaume même de Dieu dont Christ est le roi, et nous devons rendre grâce pour cela, et aujourd'hui est un bon jour pour le faire, pour être très reconnaissants, pour nous réjouir devant Dieu, parce que nous avons reçu la vérité. Dieu l'appelle une joie indicible, pleine de gloire, l'héritage des saints dans la vie. Nous sommes co-héritiers avec le Christ, nous allons hériter de ce qu'il a hérité, qui est décrit comme toute chose, quelle que soit la définition que vous en faites. Donc l'illumination de l'Église et la moisson de l'Église à la première résurrection est représentée dans cette fête des semaines, ce jour de la Pentecôte. Pentecôte, pourquoi ? Pour le compte de 50. C'est ce que veut dire ce mot. Mais l'image est bien plus grande que le compte de 50. Nous l'appelons parfois l'anniversaire de l'Église, ou encore le jour de la fondation de l'Église. C'est l'anniversaire de la fondation de l'Église. Et tout cela est représenté en ce jour, le jour de la Pentecôte. Toute cette partie du plan de Dieu, depuis le moment où Christ est ressuscité comme prémisse, et c'est dépendant de tout ce qui a précédé cela, bien sûr, mais depuis ce jour de la première gerbe agitée pendant les pains sans levain, jusqu'à la première résurrection qui se produit à nouveau à la fête des trompettes symboliquement, pas spécifiquement le jour des trompettes, comprenons-le bien. Dieu peut nécessairement, oui, effectivement, faire cela s'il le souhaite, mais j'ai entendu des gens qui m'ont dit non, vous savez, cela, le retour du Christ doit arriver le jour des trompettes. Alors, bon, si c'est vrai, alors comment est-ce que dans la fête des tabernacles, qui représente le millénaire, tout se déroule pendant 7 jours de fête? 7 jours seulement. Vous ne pouvez pas prendre 7 jours pour célébrer la fête et dire que c'est le millénium. Non, c'est 7 jours qui représentent 1000 ans. Et la fête des trompettes, c'est un jour qui représente un événement spécifique aujourd'hui. C'est un jour qui représente un événement qui s'étend, en fait, sur des millénaires. Mais nous devrions nous en réjouir. Ce devrait être un jour de profonde gratitude, de réjouissance pour nous qui avons été illuminés. Est-ce que nous nous réjouissons aujourd'hui du cadeau incroyable que nous avons reçu? Vous réjouissez-vous aujourd'hui du don incroyable qui vous a été offert? Nous pourrions nous lamenter, nous plaindre d'autre chose, je suppose avec tout ce qui se passe dans le monde, ou même la pluie qui nous inonde sur le parking, presque en chemin vers l'Assemblée. Peut-être serons-nous d'ailleurs inondés en sortant du bâtiment. Nous pourrions nous plaindre de certaines choses. Il y a des soucis, il y a des problèmes tout autour de nous, et nous devons y faire face, comme nous l'avons déjà entendu cette semaine à plusieurs reprises. Mais nous avons reçu le précieux don de l'Esprit de Dieu, la connaissance de Dieu, la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Que demander de plus? Aujourd'hui, en ce jour, Ce jour nous montre que ceux d'entre nous qui sont appelés maintenant seront des instruments, comme nous dit l'Écriture dans la première partie d'Éphésiens, que je n'ai pas lue. Il nous est dit que, dans les siècles à venir, il nous utilisera comme des exemples pour aider les autres à apprendre, dans les siècles à venir. Il est clair que le monde est dans les ténèbres maintenant, mais Christ nous a donné la lumière. Christ nous a donné la lumière et nous devons marcher dans cette lumière et nous réjouir de cette lumière alors que nous avançons. On nous dit dans le livre de Daniel, par exemple, allons dans Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 12, parce que c'est en quelque sorte un élément important de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Daniel chapitre 12. Il y est dit que ceux d'entre nous qui font partie des appelés, des élus, des fidèles de Dieu, et encore une fois je paraphrase, tous ces élus, ces fidèles de Dieu brilleront comme l'éclat des étoiles. Et ce passage vous est familier. Ce n'est pas la première fois que vous l'avez entendu. Ils brilleront comme l'éclat des étoiles, pour toujours et à jamais. Non seulement nous sommes cette lumière aujourd'hui, et nous sommes censés émettre cette lumière, mais quand cette lumière nous sera enfin finalement pleinement conférée, nous allons briller, comme il le dit, de la luminosité des étoiles, de l'éclat des étoiles. Et c'est probablement tout ce que notre cerveau de petit pois est capable de comprendre pour le moment. Et donc, il ne peut pas vraiment nous expliquer lui-même la plénitude de la gloire que nous posséderons. Mais c'est une assez bonne analogie, en fin de compte. Nous brillerons comme l'éclat des étoiles, pour toujours et à jamais. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 5, Apocalypse, pour terminer maintenant. Apocalypse, chapitre 22, verset 5. Nous lisons, « Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Ils n'auront même pas besoin de lumière. Retournons au chapitre 21 et verset 22. Apocalypse, chapitre 21, verset 22, quelques versets auparavant. Verset 22, chapitre 21. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Les nations, verset 24, marcheront à sa lumière, c'est-à-dire tous ceux qui feront partie de la récolte ultérieure, qui vont être amenés dans la famille de Dieu. Encore une fois, verset 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Le monde entier va être illuminé. Tout comme l'Église est illuminée aujourd'hui, ce n'est pas à nous de nous en vanter ou d'être vains à ce sujet ou enflés d'orgueil. Il s'agit d'être profondément reconnaissant, d'honorer par la façon dont nous vivons nos vies et de marcher dans la lumière, tout comme il est dans la lumière. Nous devrions nous réjouir en ce jour de Pentecôte parce que nous avons une part dans ce plan, dans le travail, dans la famille ultime de Dieu, et c'est une part glorieuse, remplie de lumière. Passez tous une bonne soirée et soyez prudents en rentrant chez vous. Je vous dis à bientôt.